Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui pour un nouvel épisode de Step Story, je suis avec Tony Infantino, fondateur et CEO de MyMentor.fr. Salut Tony.
Salut.
Donc MyMentor.fr, c'est une entreprise de soutien scolaire à domicile qui garantit la note de fin d'année de l'élève, donc du collège aux admissions grande école. Aujourd'hui, on enregistre ce podcast au School Lab de Saint-Lazare dans le 9e arrondissement de Paris, donc un centre d'innovation en plein Paris. Et vous, vous êtes dans le programme Seed-Up, du coup, ici.
C'est ça, ouais, l'accélérateur. Ouais.
Voilà, donc dans ce Step Story, on va revenir sur ton parcours avant MyMentor.fr, mais surtout sur le service, sur le besoin que vous remplissez auprès des élèves et auprès des parents, sur le marché, la mise en place de l'idée, le développement actuel et passé de MyMentor jusqu'à en fait, votre situation et votre contexte aujourd'hui. Alors, je te laisse revenir avant qu'on détaille qui t'es, ce que tu as fait, etc. J'ai bien envie qu'en trois points, tu me corriges un peu sur ce que j'ai dit sur ton activité. Donc, alors, que tu mettes en place le contexte d'entreprise. Combien vous êtes chez MyMentor? Quel territoire vous couvrez et le chiffre d'affaires annuel que vous réalisez aujourd'hui. Et après, on reviendra sur l'activité en deuxième partie.
Alors, donc nous, MyMentor, aujourd'hui, on est présent en Île-de-France et à Lyon. Et là, sur les trois prochains mois, on va lancer pas mal de villes, du coup. Et donc, on est une équipe de cinq personnes avec deux cofondateurs. Donc, moi, le CEO et William Grenier-Godard, le CTO. Et tu m'as dit, l'autre question, c'était ?
L'autre question, c'est le chiffre d'affaires annuel que vous réalisez.
Et du coup, nous, en termes de chiffre d'affaires, donc, on fonctionne un petit peu différemment parce qu'on clôture l'année en année scolaire. Donc, en fait, ça s'arrête en juin. Et pour donner un ordre d'idée, on a fait un peu plus de 20 000 heures de cours au tarif de 29 euros de l'heure. Quoi.
D'accord, ok. Donc, c'est ça le volume d'affaires que vous réalisez.
Voilà.
D'accord. Donc, maintenant, je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences avant MyMentor. On aura l'occasion d'en parler, mais celles qui ont mené aussi à MyMentor. Mais voilà, je te laisse te présenter.
Alors moi, je viens d'un petit village du nord-est de la France. En gros, j'ai eu un parcours qui représente un petit peu la méritocratie classique du système scolaire, donc qui vient un peu de nulle part, qui intègre après SCP Europe, donc une école de commerce dans le master grande école. Et en parallèle de SCP, donc moi, j'ai travaillé pendant 2 ans en apprentissage, donc à la direction marketing de Société Générale. Et en parallèle, en fait, on a co-créé ma première boîte qui s'appelait Grande École à domicile, qu'on a fermé du coup en avril 2016. Et j'ai réenchaîné direct derrière avec MyMentor depuis cette période. Quoi.
Du coup, ce n'est pas ton premier projet entrepreneurial ?
C'est pas le premier projet. Avant ESCP, à l'époque, j'avais fait des études d'économétrie au Luxembourg. Donc, truc un peu atypique, mais venant du nord-est de la France, c'était un peu la zone la plus proche qui faisait de l'éco orienté maths et bilingue anglais. Donc, c'était vraiment un truc qui me plaisait. Et c'est vrai que là, j'avais déjà commencé à créer un BDE. On avait fait pas mal de voyages étudiants. On avait vraiment tout créé parce que rien n'existait. Et c'est ce qui m'a donné un peu la fibre entrepreneuriale en plus d'un stage aux États-Unis où là, j'ai été bénévole dans un gros festival international et plutôt à la structuration au tout début du festival. Donc voilà, donc ouais, c'est plutôt une vocation depuis mes 19 ans.
Ok, donc toi, on va dire que la fibre entrepreneuriale, tu la ressens depuis que tu as 19 ans et ces premiers projets-là qui in fine ont mené à MyMentor. Donc en fait toi tu as toujours été dans le soutien scolaire. Ça on va voir que c'est la valeur principale de MyMentor, c'est de restructurer, redéfinir le soutien scolaire en France. Et donc c'est via cette première boîte dont tu as parlé, que tu as arrêté en 2016,
ouais,
c'est ça ?
Exactement. Ouais.
Parce que MyMentor a été créé en 2016. Donc en fait ton arrivée dans l'entrepreneuriat, elle n'est pas si logique que ça, mais in fine elle ne vient pas de nulle part non plus.
Oui, tout à fait. En fait, moi, j'adore. C'est un principe. En fait, j'étais joueur d'échecs depuis que j'ai 4 ans. Et vers 13-14 ans, j'avais un niveau national. Et passé mes 14 ans, j'ai donné pas mal de cours d'échecs. Donc, j'ai tout le temps été prof particulier. Et quand je suis arrivé en université, j'ai continué à donner des cours plutôt maths et éco. Et c'est vrai que j'ai tout le temps été prof, on va dire, à la base. Et après, l'entrepreneuriat, finalement, c'était plus par l'entrée de ma vocation. Où finalement je me suis dit le système déconne vraiment et on peut changer les choses dans le système qui a fait que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Quoi.
Ok, donc tu avais en fait ce côté déjà pédagogique et ouais. Après toi tu avais cette vision de il faut redéfinir le soutien et la scolarité en France et donc ça a fait MyMentor.
Exactement.
Bah, super, belle transition. Du coup maintenant est-ce que tu peux me présenter MyMentor.fr, l'entreprise, le problème de fond que vous résolvez, le service? Et donc, on parlera des offres un peu plus tard, en détail. Mais voilà, tu me présentes le problème que vous résolvez et le service.
Alors du coup, MyMentor.fr, donc, c'est la première structure de soutien scolaire à domicile qui garantit la note de fin d'année. Donc concrètement, pour donner un peu la genèse du soutien scolaire en France, ça a été Academia qui a créé le truc dans les années 80, qui a commencé à finalement vendre des cours à domicile en trouvant un prof. C'était vraiment ce qui s'est passé initialement. Et en fait, historiquement, avant l'arrivée de MyMentor, la famille venait avec une demande très précise. Elle arrive, elle dit je veux 20 heures de cours, j'ai un budget de 1000 euros par mois, enfin 1000 euros pardon, sur l'année, et je veux derrière des cours d'anglais, de français et de mathématiques. Et l'organisme traditionnel, donc l'ensemble des organismes à part nous, vont allouer à la famille un nombre d'heures et la famille va choisir le tarif le plus intéressant finalement.
Okay.
MyMentor, où on change totalement les choses, c'est qu'on dit à la famille, ok, vous avez ce budget de 1000 euros, mais avec ces 1000 euros, nous, il va y avoir des questions. Déjà, votre enfant, c'est quoi son niveau dans les matières? Parce que si on a français, anglais et mathématiques, mais qu'en fait, l'enfant, il a 13 en anglais et en français, mais 5 en mathématiques, et qu'il veut faire des études d'ingénieur, bah, on a autant bossé que les maths à fond pour l'amener plutôt à 12-15 au lieu d'aller...
En fait, vous vous adaptez au profil de l'élève.
Exactement. En fait, on part vraiment du besoin de l'élève, un peu comme si vous alliez voir un médecin, en fait, et que vous lui dites j'ai mal à la gorge et je veux tel médicament. En fait, le rôle du médecin n'est pas de vous dire voilà le médicament, c'est de vous dire avez-vous d'autres symptômes, et après d'analyser la situation et de vous proposer ce qui vous convient le mieux. Bah, MyMentor, c'est ça en fait qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on arrive à garantir la note, parce qu'on est capable de cadrer là où on peut aller, le besoin de la famille, et derrière piloter jusqu'à la réalisation de la garantie. Quoi.
Voilà, donc on va voir ensuite comment vous... Alors, vous garantissez cette note de fin d'année, ça ouais. C'est sûr, et on va voir comment vous remplissez ce service, en fait, parce qu'on va voir que les mentors sont des personnes, en fait, il y a un profil, on va dire, moyen du mentor, mais on va dire que c'est des particuliers qui font office de mentor, et ça aussi, c'est une espèce de particularité, quand même, qui est propre à MyMentor, et ça, on le définira après. Comment vous recrutez vos mentors, comment vous assurez que c'est les bons, et comment vous les assignez sur des élèves, etc., et comment ça fonctionne en termes d'heures, etc. Ça, on reviendra vraiment dessus sur l'offre. Donc dis-moi, alors bon, c'est dommage, enfin c'est pas dommage du tout, mais tu as un peu parlé de comment était venue cette idée de pédagogie dans le soutien scolaire. J'ai demandé comment l'idée de la boîte est venue. Je pense que tu as un peu déjà répondu à la question totalement. Donc maintenant, j'ai envie que tu rebondisses un peu sur ce que je vais te dire. Moi, j'ai un peu envie de dire que l'ambition de MyMentor, ça je le sors pas de mon cerveau, c'est toi qui l'as dit, c'est de réussir avec les élèves là où l'école a échoué. Est-ce que tu peux un peu développer cette valeur, cette conviction que vous avez, et surtout c'est la mission que vous vous êtes donnée?
En fait, aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu le cursus classique de l'école, on part tout le temps vraiment de l'éducation nationale. On descend, on applique une méthodologie générale. Et en fait, soit l'enfant adhère à cette méthodologie et donc arrive à s'adapter, soit il sort du système. Et en fait, la problématique de ça, c'est que le niveau, si on prend le niveau global d'exigence, il diminue quand même d'année en année. Mais l'élève, finalement, qui ne va pas fonctionner par rapport à ce système-là, aujourd'hui, il n'a pas vraiment de solution parce que soit il adhère au système, soit il va dans des structures privées qui coûtent extrêmement cher et qui allouent pas forcément le même résultat de garantie du bac, du brevet. Et donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt vraiment de partir de l'élève, de voir sa façon d'apprendre, de voir comment il fait pour faire un programme qui est sur mesure et qui va à la fois être sur une approche un peu différente de la matière. Et puis surtout, on est les premiers à vraiment s'intéresser à la côté, en fait. Est-ce que l'enfant, il a des mauvaises notes parce qu'il a la flemme et il déteste ses profs? Ou est-ce que, en fait, il a des mauvaises notes parce qu'il ne comprend pas une notion d'il y a même 4 ans en mathématiques, par exemple? Donc, c'est ça notre travail. C'est vraiment un travail d'investigation. On part de l'élève et du coup, quand on part de l'élève, les solutions viennent aussi beaucoup plus vite, quoi.
On n'impose rien à l'élève. On part de lui pour ensuite lui amener toutes les cartes en main. Et après, c'est un boulot entre les deux parties, quoi.
Exactement. Et en fait, le système de l'éducation nationale, c'est appliquer la même méthode en forçant en fait l'élève à apprendre ses connaissances, alors que finalement, si on s'intéressait à comment l'élève approche ses connaissances et les assimile, et qu'on fonctionne comme ça, il apprendrait 15 fois plus vite. Et donc, c'est vraiment notre rôle, c'est plutôt ça, quoi.
Ok, alors moi, j'ai envie de te demander, MyMentor, ça existe depuis 2016.
Ouais.
Vous vous êtes lancé quand précisément en 2016 et surtout dans quel contexte? Comment votre solution a débarqué sur le marché? Aujourd'hui, MyMentor.fr, c'est un site internet sur lequel tout se passe. Il n'y a pas d'application mobile, si je ne dis pas.
Non,
voilà.
Non.
Donc tout est sur internet. En 2016, comment vous êtes arrivé? On parlera un peu communication après, mais vraiment, quelle on va dire la première approche sur le marché?
Du coup, on s'est lancé donc en septembre 2016, notamment avec l'arrivée d'William, mon nouvel associé, qui est très orienté tech, data et produits.
On en parlera dans l'équipe.
Ouais. Et du coup, lui, il était vraiment très orienté à dire faut vraiment qu'on fasse quelque chose qui soit data, qui soit carré. Et donc, idéalement, la garantie de notes. Mais la première étape, donc le MVP, ça a été déjà de normer les profils des élèves. Donc, on a, j'en avais parlé dans un petit blog post, où en fait, on a créé quatre grands profils d'élèves avec leurs besoins, leurs attentes. Et du coup, une fois qu'on avait ça, c'était déjà beaucoup plus simple de traquer ses profils. Et on a commencé à suivre les notes, en fait. C'était vraiment la première année de la boîte où on commençait à se dire, ben, qu'est-ce qui se passe, en fait, tous les trois mois en termes de progression de notes. Et pourquoi ça marche avec certains et pourquoi ça marche pas avec
d'autres. Et du coup, la valeur proposée, c'était pas la garantie de la note comme ça l'est aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'était ?
C'était vraiment comprendre, en gros, le premier service qui part de ton enfant, qui le comprend. Et voilà, c'était ça.
D'accord. Et en termes de communication, vous étiez arrivé avec cette com, cette valeur-là, ou c'était un truc un peu plus subtil que ça ?
Je sais pas si c'était plus subtil. En fait, c'était surtout... c'était qu'on il fallait commencer par quelque chose. Donc, c'était pas...
C'était une étape.
C'était pas réfléchi, quoi. C'était vraiment de se dire... À terme, on veut quand même garantir les notes. Bon, bah, la première étape, c'est déjà de normer un peu les profils des élèves. Donc, c'était quand même la vision initiale de garantie de notes.
Il y avait un fil rouge, mais il fallait passer par là. Quoi.
Exactement. Okay. Exactement.
Bon, le besoin sur le marché, il existait parce qu'il y avait des gros acteurs déjà qui remplissaient bien ce besoin.
2 milliards, dont 1,6 milliard au black. Donc, c'est vraiment la preuve en plus.
Et qui est en croissance
qui prend à peu près 5% par an. Okay. Après, c'est Xerfi, donc c'est tout le temps compliqué avec Xerfi de projeter les choses. Mais derrière aussi, c'est, ce qu'il faut voir, c'est que l'éducation privée en France, ça augmente de 10% par an aussi, quoi. Donc nous, aujourd'hui, on est à la frontière entre un substitut à l'éducation privée et vraiment le soutien scolaire, quoi.
Et le marché du soutien scolaire, c'est quelque chose aussi, il y a de plus en plus de... Parce que, in fine, c'est les élèves, mais les clients, c'est les parents.
Tout à fait.
Donc, il y a aussi la volonté de la part des parents de faire accompagner leurs enfants plus qu'à l'époque où les parents se disaient si mon enfant il échoue, c'est qu'il n'a pas envie. Alors qu'aujourd'hui, ils se tournent vers des alternatives, des solutions pour lui donner envie ou en tout cas pour l'aider. Aujourd'hui, ils sont plus, pas friands, mais plus aptes, plus compréhensifs pour aller vers des solutions comme vous.
Ah, c'est un peu plus compliqué aussi aujourd'hui pour les parents. C'est-à-dire que déjà, qu'ils ne suivaient pas trop en général le parcours de leur enfant. Maintenant, tu te retrouves dans une situation où dès la seconde, il n'y a plus de filière, mais tu dois faire un choix de 3 spécialités parmi 20 spécialités, dont 2 que tu peux potentiellement supprimer et rajouter en première, plus en terminale, tu en choisis une que tu renforces. Et tu as la moitié des options qui, en vrai, n'ont pas de qualification qui vont te permettre après d'avoir un dossier mieux qualifié que d'autres sur le supérieur. Et le supérieur, en parallèle, vu que ce n'est pas assez compliqué, bah, l'État l'a totalement changé avec un modèle de Parcoursup où ils n'expliquent pas aux parents. Donc en fait, tu es tellement paumé aujourd'hui.
C'est encore Parcoursup ou c'est ça le nom de la nouvelle plateforme depuis
deux ans.
D'accord.
Ouais, et du coup, en version 2, 3 étoiles, etc. Mais du coup, les parents, je ne pense pas que ce soit vraiment un changement de mentalité de dire qu'il faut absolument prendre des cours particuliers, mais vu que tu es encore plus paumé qu'avant.
Ça a créé le besoin encore plus. Bah, quoi.
Tu te dis qu'au moins, avant, tu pouvais te dire, bon, il a des notes moyennes, mais on va quand même s'en sortir parce que c'est à peu près clair. Maintenant, avec des notes moyennes, tu sais même pas si ton enfant, après le bac, il peut avoir un parcours qui n'est pas censé être élitiste. Quoi.
Okay. On a l'impression que même avec, alors je dis une valeur comme ça, mais même avec 13 de moyenne, on est sûr de rien. Quoi.
Exactement. Exactement. Parce qu'en plus, il n'y a aucune visibilité sur les critères des dossiers. Aujourd'hui, tu peux quand même, l'État te dit que pour aller dans une école post-bac d'ingénieur, tu n'es pas obligé d'avoir fait maths dans ton parcours au lycée parce que finalement, c'est une option qui ne va pas être déterminante dans le regard de ton dossier. Les écoles du supérieur doivent regarder tous les dossiers. Mais bon, dans les faits, si 80% des dossiers ont l'aspect maths, bon, bah, les écoles d'ingénieurs vont privilégier. Sûr. Donc, c'est ça en fait. Et c'est un peu le but aussi de notre blog aujourd'hui.
Okay.
C'est
de... Votre blog qui se trouve sur votre site
mymentor.fr/blog, okay. Hyper original comme nom.
Okay.
Et du coup, on a essayé de faire ça en fait. On s'est dit, au-delà du soutien scolaire, on va donner les clés aux parents pour un peu capter mieux ce système et pouvoir se repérer. Donc voilà, c'est un peu l'ambition aussi. Quoi.
Bah super, belle présentation de MyMentor en tout cas. Maintenant, on va parler de l'équipe.
Ouais.
Écoute, moi je vais te laisser me dire comment ton équipe se compose, donc avec qui tu travailles, les associés, quels sont leurs rôles, la répartition des tâches et les missions de chacun. Donc, qui est au product, sur le dev, qui s'occupe, parce que c'est une grosse partie aussi dont on va parler, c'est les mentors, le recrutement et le suivi des mentors, parce que c'est quand même le cœur du produit, in fine. Ils sont limite encore plus proches des clients que vous, non ? Le marketing et les sales. Donc vas-y, je te laisse me présenter un peu ton équipe.
Alors du coup, nous, on est 5. On est donc 2 co-founders, donc William, mon associé qui est le CTO. On a un nouvel arrivant depuis août en CDI, en dev, du coup, pour soutenir William. On a un bizdev, donc on appelle nous conseiller pédagogique, parce qu'en fait, bon, on y reviendra, mais sur l'approche qu'on a vis-à-vis des familles, on n'est pas du tout dans de la vente, on change vraiment cette approche aussi. Donc lui qui s'occupe clairement d'appeler les leads entrants, aussi de la relation avec nos familles, parce que en gardant le lien, on fonctionne pas mal avec un bouche à oreille. Donc c'est un rôle assez atypique qu'on a créé un peu sur mesure.
Okay.
Il y a moi le rôle de CEO qui se résume à avoir une vision et rattraper les merdes et lever des fonds, quoi. Donc je fais un peu tout. Et on a un profil freelance sur la partie recrutement, justement. Et,
des mentors.
Ouais, ouais, des mentors. Et c'est un profil souvent tournant, parce qu'en fait, c'est des profils un peu hybrides, relativement jeunes, qui sont en contact avec tous les BDE. Donc, on veut un peu garder ce relationnel un peu...
Ouais. Proche, proximité.
Ouais, exactement, ouais, exactement. Et nous, en interne, en fait, sur l'aspect recrutement, vu qu'on est, une boîte extrêmement data, en fait, le recrutement est automatisé à 95%. Quoi.
Ouais. J'ai vu que vous passiez aussi par Welcome to the Jungle pour du recrutement. Alors, ouais. Je ne sais pas si c'est exclusivement par eux, mais en tout cas, vous êtes aussi sur la plateforme pour...
Alors ça, c'est vraiment pour les profils, du coup, l'équipe.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en
dev... C'est pour les mentors, ça.
Ouais, 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 vraiment, Welcome. C'était pas simple de trouver nos profils. Quoi. On a trié quand même une trentaine de profils BizDev, une vingtaine de profils tech. Mon associé est prof au wagon, en plus.
Ouais.
Donc, il y a les exigences qui vont avec... Il a déjà monté une boîte très tech auparavant. Donc, c'était pas simple de trouver la bonne team. Donc, c'est pour ça que Welcome, on l'utilisait pour ça. Le recrutement des mentors, nous, c'est vraiment avec les BDE que ça fonctionne. Mais c'est très simple, en fait. C'est tellement un bon plan qu'en signant une semaine un BDE, il nous ramène 80 profs.
Okay.
Donc, voilà, c'est
qui ont un certain profil, mais on en parlera
tout à fait.
Parce que ça, c'est une garantie aussi que vous donnez aux parents, que les mentors ne sont pas n'importe qui, que c'est quand même des personnes compétentes et qui peuvent vraiment faire le rôle de professeur auprès de leurs enfants.
Ouais, on y reviendra, mais la raison, donc effectivement, nos mentors, c'est plutôt des étudiants grande école. Il y a une raison un peu géographique aussi, quoi. Quand tu es à Paris et Lyon, en fait, on change vraiment la façon de fonctionner des parents. Donc, on essaye quand même d'avoir des petites sécurités de réassurance pour faire en sorte que le parent ne soit pas vraiment dans une vision totalement nouvelle du système. Quoi. Donc, okay, c'est par étapes.
Ok. Alors, petite question. Comment vous travaillez en interne? Bon, là, on est à School Lab dans le même arrondissement. Ouais. Vous êtes dans le programme Seed Up. Est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ce programme? Pourquoi vous êtes, in fine, vous, pas incubé, mais pourquoi vous êtes, on va dire, installé à School Lab?
C'est accéléré. En gros, c'est un accélérateur
de start-up.
De start-up géré par School Lab.
Ok, alors comment vous travaillez en interne, en orga, est-ce que vous travaillez avec beaucoup d'outils? Tu m'as dit que tu étais archi-data, donc tu travailles sûrement avec des outils comme Slema pour voir toutes tes datas, etc. Si tu en as d'autres, tu peux me les dire, ça nous intéresse. Donc voilà, comment vous organisez? Est-ce que vous travaillez tous les jours ensemble? Est-ce qu'il y a des personnes en remote? Voilà.
Alors nous, sur le remote, en gros, que les gens soient là ou pas, on s'en fout. En fait, on est parti des sprints dev. Donc en général, c'est plutôt sur 2 semaines avec une zone d'effort. Et... Donc ça, c'est vraiment la partie dev qui fonctionne comme ça. Et nous, en fait, on a utilisé ce principe-là pour l'ensemble des actions de la boîte, en fait. Donc, typiquement, sur de l'acquisition, tu as des sprints hebdo avec des attentes de sprint hebdo, un résultat et derrière un commentaire. Donc, si tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait, qu'est-ce que tu as appris? De la même manière sur le recrutement, de la même manière sur en tant que CEO, vu que à plein temps, je gère des merdes, je me donne quand même des to-do à faire en hebdo, sinon ça n'avance pas. Donc, voilà, c'est vraiment, on fonctionne vraiment avec un système de sprint. Après, au niveau du CRM, là, on utilise le truc classique Airtable. Alors, pas HubSpot, parce qu'en gros, c'est un peu la machine de guerre, en fait. Tu vois, c'est la machine de guerre où tu intègres aussi pas mal de market automation. Et en fait, nous, vu qu'on est en train de structurer tout ça, on a préféré Airtable, qui est relativement souple.
Airtable, c'est nouveau, mais c'est arrivé fort.
Airtable, en fait, ce qui est hyper pratique, c'est que c'est vraiment le sorte de Google Sheet avec un front, quoi. Donc, tu peux vraiment tout faire et tu peux autant intégrer des vues différentes, un peu comme des pipe drive où tu peux faire en
pipeline. Genre,
ouais, exactement. À l'inverse, tu peux faire de l'Excel, tu peux faire des vues qui sont privées pour certains users.
Airtable, c'est vraiment pas mal.
Ouais, et en fait, c'est une prise en main vraiment hyper simple. Donc, c'est vrai que c'était hyper pratique. Et après, au niveau des data, là, en fait, on est en train vraiment de normer l'ensemble de nos champs. Donc là, on commence à vraiment mettre en place des choses qui sont vraiment beaucoup plus orientées mathématiques et machine learning. Et pour le moment, les data, après, c'est plus en termes de gestion. William, ça, c'est des trucs où je m'en mêle absolument pas. Et en vrai, vu qu'il est largement plus solide que moi,
il n'y a pas de souci avec lui, quoi. Ouais, de son côté, quoi.
Ouais, exactement. Ouais,
okay.
Exactement.
Bah, alors, du coup, toi, tu vas pouvoir me parler de l'offre.
Ouais.
Quelle transition incroyable. Aujourd'hui, bravo. Quelle forme prend l'offre pour les élèves, c'est-à-dire quel est le parcours jusqu'à avoir un cours? Moi, demain, je suis un parent, mon fils il a des difficultés ou pas, ou en tout cas j'ai envie de lui garantir sa note, de faire ce, d'arriver à ce résultat, comment ça se passe? Quel format d'aide? Est-ce que c'est du one shot? Est-ce que c'est du mensuel, trimestriel ou de l'annuel? Est-ce que ça fonctionne par horaire en termes de prix? Tu vas me donner un peu le parcours utilisateur jusqu'à avoir un mentor et comment le business model s'effectue côté utilisateur?
Ouais, alors en fait, une famille, quand elle vient chez nous aujourd'hui, on va faire un pré-audit, si tu veux. Donc, elle va faire un parcours très classique. On va mettre des données standards, hein, matière, niveau, note initiale, lieu du cours, disponibilité, tout ce qu'elle veut. Donc, il y a cette partie-là. Il y a un petit questionnaire très basique sur des questions sur l'enfant. Est-ce qu'il est stressé en cours? Est-ce qu'il a confiance en lui, etc. Donc, trois petites questions. Nous, on a une petite matrice en interne qui nous permet de réutiliser justement les quatre profils qu'on avait utilisés auparavant, qui vont derrière matcher avec de la même manière nos mentors et les petites questions qu'on a posées sur leur type de profil. Donc ça, ça fait déjà automatiquement le profil de l'élève. Et aujourd'hui, une fois que tu as fait ça et qu'après, on te propose donc un abonnement mensuel avec un minimum de 6 heures par mois, une garantie de note de fin d'année et le premier mois est sans engagement. Et ensuite, tu as 3 mois de préavis. Donc en gros, une fois que tu as fait ça, tu es inscrit. Là, nous, on va t'appeler. En général, une fois que tu as fait cette étape-là, tu vas être appelé par un conseiller My Mentor pour compléter les éléments. Parce qu'en fait, il y a des situations d'élèves, c'est un peu du cas par cas, mais il y a tout le temps des contextes qui font que c'est bien d'avoir un petit appel pour les familles. Et vu que le panier moyen est quand même à 280€ par mois, ça vaut le coup aussi d'échanger parce que la famille, on n'a pas assez de notoriété pour que en entière confiance, la famille s'abonne directement en ligne. Quoi.
Alors justement, donc... En termes du business model, c'est un paiement par heure. Donc, tu m'as dit avec un minimum de 6 heures par mois.
Ouais.
Alors, c'est en fonction du niveau. Alors, on va parler des réductions dont bénéficient les parents après, parce qu'on va dire qu'il y a un truc après impôt.
Ouais.
Mais alors, on va dire que par tranche horaire, par heure, c'est 14,50€ pour le collège.
Ouais.
C'est 19 pour le lycée.
C'est ça.
19€ et 25€ par heure pour les élèves en études supérieures.
Ouais. Et 60 et donc, du coup, 30€ pour les jeunes en prépa, quoi.
Ok, donc ça, il n'y a pas écrit sur le site. Mais
Parce qu'en fait, on le fait vraiment par rebond, les prépas. C'est vraiment un niveau où, en termes de capacité de matching pédagogique et de suivi, on pense qu'on a moins de valeur ajoutée que dans les autres niveaux où, finalement, il y a beaucoup plus d'enjeux de motivation, de stress, etc. Okay. Donc, c'est pour ça. Mais effectivement, donc là, les chiffres que tu as donnés, c'est après impôt. Donc, avant impôt, il faut multiplier par deux.
Justement, est-ce que tu peux me dire dans quel cadre l'offre de My Mentor bénéficie de cette possibilité du coup à donner à ses clients?
Alors, c'est hyper simple. Hein. L'agrément, tu l'as quand tu es service à la personne. Donc, dès lors que tu réalises des cours à domicile et au domicile de la famille, tu en bénéficies. Donc, donc ça, il n'y a pas vraiment de case à cocher particulière. Okay. Hein. N'importe quelle structure qui se lance, il y a droit.
Très simple, en fait. C'est classique.
Ouais,
quoi.
Exactement.
C'est standard, en fait.
Exactement.
Chaque cours est noté.
Ouais.
Côté mentor et côté élève ou pas? D'accord, des deux côtés. Et il y a un conseiller qui contacte dès que la note est inférieure à 9 sur 10.
C'est ça.
Du cours.
C'est
alors,
ça.
On peut se dire que c'est élevé, mais en fait, tu vas expliquer pourquoi 9 et dans quel cadre il le contacte, dans le sens où pourquoi faire? Un suivi, on a compris, mais...
Alors en fait, là, effectivement, il y a le médium de contact. C'est-à-dire que quand tu as en gros entre 8 et 10, c'est plutôt un mail qui va te permettre de checker si... c'est une notation élitiste qui fait que 8 sur 10, ça veut dire 10 sur 10. Ou si c'est vraiment 8 sur 10, il y avait un petit couac, arrivé en retard, des éléments assez basiques finalement. Par contre, dès qu'on est sur un 6 sur 10, là, il y a un appel. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on est à quasiment 100% de premiers cours qui fonctionnent bien. Donc en fait, si dès le premier cours, la famille a déjà perçu quelque chose qui fait que ça remet en cause la qualité du mentor, nous, c'est vraiment le socle de base pour prendre la direction de la garantie de note. Quoi.
J'ai une question super intéressante qui vient de me tomber en tête. On va en parler juste après. Alors, t'inquiète pas, je vais la passer juste après. Ouais. Maintenant, on va parler des mentors. Côté mentor, comment ça se passe le recrutement? Donc, tu en as parlé, l'acquisition de mentors, ça se fait côté BDE avec les écoles de commerce ou même école de d'ingé, etc. Toutes les écoles, les grandes écoles.
Ouais.
Comment il se passe le recrutement et comment on va dire que vous vérifiez leur profil? Eux, c'est quoi le parcours, on va dire? J'ai pas envie de dire B2B, mais comment ça se passe le parcours côté un peu pro-mentor en fait?
Alors nous, il y a pas mal d'éléments à compléter. Hein. Tu dois donner ta pièce d'identité, tu as pas mal de documents officiels pour attester.
Casier judiciaire vierge
Alors ça, on le demande pas encore. En fait, on le demande au moment où tu vas vraiment prendre les cours parce que sinon le parcours, le problème
il est trop long, il est trop.
Bah, ouais. C'est surtout que tu dois le demander t'as souvent 10 jours de délai.
Ouais, non, ça serait pour vous, c'est impossible, vous perdrez tout vos leads, c'est impossible.
Ouais, bah en fait, et puis c'est surtout que aujourd'hui, il faut pas se mentir, on a une acquisition mentor qui est quand même beaucoup plus importante que famille. Donc en fait, avant que la famille commence avec un mentor, c'est le moment où tu vérifies toutes les choses légales. Mais si un mentor, en fait, tu l'as jamais trouvé de cours, tu vas pas en plus le saouler avec d'autres éléments.
Du coup, c'est ma question. Aujourd'hui, c'est quoi la rétention sur les mentors? Au bout d'un cours, il en fait un deuxième à combien de pourcents?
Alors nous, les mentors, on fonctionne. Donc nos mentors, c'est que des étudiants avec plutôt un bon parcours. Mais vu que ça débute à 20 euros de l'heure et qu'ils s'assurent en fait, d'avoir minimum 120 euros par mois, en fait, on est tellement confortable qu'une fois qu'ils commencent avec nous, ils veulent rester.
D'accord.
Donc, il n'y a pas de problématique. Par contre, où je n'ai pas l'information, c'est que quand une personne s'inscrit en septembre, tu ne lui as rien trouvé jusqu'à maintenant, à quel point tu la réactives, c'est assez marginal. Mais vu qu'on recrute en continu, et au niveau de comment on recrute, il y a les BDE, mais il y a pas mal de bouche à oreille. Dès qu'en gros, tu trouves un cours à un prof et que via l'UX, c'est quand même hyper simple d'être payé, en fait, ils en parlent à leurs potes.
Donc, en fait, c'est assez simple. L'acquis mentor est simple.
Ouais. Tu vois, si tu prends d'une perspective plus entrepreneuriale où tu dis qu'on est une marketplace, finalement, dans cette structure de marketplace, nous, l'enjeu, il est plus côté famille, en fait.
OK. Et quels autres leviers tu pourrais avoir en acquisition de mentor? Aujourd'hui, c'est les BDE, les grandes écoles. Est-ce qu'il y a des leviers qui sont envisagés quand même? Parce que, bon, en vrai, la source est assez inépuisable dans le sens où il y a des nouveaux élèves en grandes écoles tous les ans.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu pourrais activer?
Ouais, bah pour vous donner un ordre d'idée sur les petites annonces de profs particuliers, tu mets mathématiques, Paris, t'as genre 15 000 ou 20 000 annonces par mois.
Ok.
Donc en fait, on fonctionnait comme ça au début en allant sur les petites annonces, trouvant des profils vraiment excellents qu'on ramenait via la plateforme. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'en fait, via les BDE, c'est extrêmement rapide. On renouvelle des partenariats, ça envoie un flux assez simple. Les BDE, quand on a des demandes où on n'a pas les profils, on poste chez les BDE, on a des partenariats financiers avec eux.
Okay.
Donc en fait, c'est très très simple. C'est vraiment.
Okay.
Et c'est un canal du coup qui est extrêmement héroïste. Donc, enfin, l'optimisation de ce canal-là n'a pas d'intérêt, quoi.
D'accord. Aujourd'hui, le business model, il est stable et il est simple.
Ouais.
Est-ce que tu peux le décrire très simplement?
Nous, on prend une commission. Donc. Par mois, hein, par heure de cours. Donc, une famille qui a 10 de moyenne, qui va vouloir 2 heures par semaine et qui arrive maintenant, on va lui garantir, grosso modo, aux alentours de 12 et quelques, 12,9, 13. Et elle va payer mensuellement un montant tous les mois. Les heures réalisées, on va donner une partie au mentor et la différence, on la garde.
D'accord. Alors, tu as parlé de vos invests tout à l'heure qui sont entrés au capital de MyMentor.
Ouais.
Est-ce que tu peux me dire combien vous avez levé?
Ouais.
Avec qui? Alors moi, j'ai vu que c'était des entrepreneurs de la Silicon Valley. Il y en a qui veulent rester anonymes, d'autres non. Si tu as envie de les donner, tu peux les donner. Et dans quel but? Alors j'ai aussi vu que c'était pour aller sur... Aujourd'hui, c'est Paris-Lyon.
Ouais.
Y a peut-être d'autres villes un peu quand même. Mais voilà, le but, c'est d'agrandir la zone couverte. Est-ce que tu peux me dire la levée, dans quel contexte et pourquoi?
Alors nous, on a levé 400 000. Alors ce qui a été très compliqué sur la levée, c'est c'est un secteur, le soutien scolaire, personne l'a vraiment révolutionné, donc c'était assez compliqué de pitcher la chose à des personnes qui n'avaient pas un parcours entrepreneurial ou d'investisseur, qui comprenaient que le risque principal du site, c'est l'équipe. Donc dès lors que on a pu parler à cette typologie d'entrepreneurs, finalement ça a été plus simple pour nous. Donc là, on a un board vraiment de personnes, notamment, il y en a un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Cédric Selin, qui est vraiment un mentor pour nous. Lui, il avait monté une boîte EdTech dans la Silicon Valley, backée par Sequoia Capital. Donc c'est vraiment c'est la typologie de profil qu'on apprécie d'avoir et avec qui on échange chaque semaine, par exemple.
C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais bon, qui se déduit, c'est obvious. C'est que MyMentor.fr, c'est une startup EdTech.
Ouais.
Et donc, en fait, vous avez eu ce besoin d'aller chercher les entrepreneurs qui comprenaient votre mission, votre vision et le marché. Donc, quelqu'un qui avait déjà créé quelque chose dans la EdTech.
De toute façon, c'est l'idéal. Hein. Tant qu'à faire, tu bénéficies des erreurs que les personnes ont pu faire via leur boîte. Et l'autre élément aussi, c'est qu'il avait la double casquette. Donc, nous, aujourd'hui, c'est une levée... on va dire que c'est un gros pré-seed avant un seed. Et idéalement, on voulait aussi des entrepreneurs qui peuvent nous permettre de faire une levée de seed potentiellement sans fonds d'investissement, si jamais ça se passe bien.
D'accord.
Et du coup, il fallait des assises financières assez solides. Donc, on a aussi un profil qui était un ex-dirigeant du CAC 40. Donc, c'est des profils qui, assez facilement, peuvent rallonger et qui ont l'autre élément dont on parle très, très peu, en fait, dans le monde des startups. C'est quand même, bien sûr, la valorisation qui fait que, c'est important, mais malheureusement, on met trop de valeur sur la valo versus le pack d'associés. Et en fait, nous, on a un pack d'associés où on a vraiment la confiance absolue des business angels sur notre management. Et on est hyper carré sur les reportings. Hein. On est
okay, donc vous êtes libre, il y a des bons reportings, mais tout se passe bien. Quoi.
Exactement. Et c'est justement parce qu'on n'était pas trop regardant sur la levée, mais très regardant sur le pacte.
Okay.
Et en fait, le fait d'avoir un pacte hyper propre, avec une réelle confiance, mais qui est acté légalement, ça permet du coup derrière d'avoir une relation. Si nous, on est dans la bienveillance et dans l'entreprise structurée, fait qu'il y a un rapport assez, assez agréable et efficace avec les investisseurs. Okay. Quoi.
Donc là, tu l'as dit, c'est une levée pré-seed. Ouais. Ça veut dire qu'il y a peut-être une autre levée qui est prévue, l'instant, mais qui est dans la tête.
Alors, c'est tout le temps une histoire d'ambition. C'est-à-dire que s'il faut faire un seed derrière, on le fera. Là, l'idée, c'est que de par la structure du business model, si on arrive à vraiment augmenter le volume d'acquisition, on peut arriver à une situation relativement rentable qui va nous permettre peut-être de faire une série A plutôt que de passer par un seed.
D'accord.
De fonds. Et on a plus de contacts aussi dans les fonds de série A que de seed. Donc, c'est un peu la trajectoire. Quoi.
Ok. Si vous voulez approfondir tout ce qui est levée de fonds investissement, moi, j'ai un très bon podcast à vous conseiller. C'est le podcast d'Alexis Ménard. Vous tapez sur LinkedIn Alexis Ménard avec M-E-N-A-R-D, qui est un très bon podcast avec déjà plusieurs épisodes. Il vient vraiment avec des invités très intéressants sur les levées de fonds, les investissements, etc. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande. Ok. Ensuite, on va parler des clients. Dernière petite question. William, qui est CTO, mais donc qui est sur le produit, in fine, parce que le produit, il est digital. Bon, non, mais tu m'as compris. Comment vous avez, en fonction des feedbacks et du temps, optimisé ce parcours utilisateur, un, pour avoir un cours, et deux, tout ce qui est la communication avec le mentor, etc. Comment vous l'avez optimisé en fonction des feedbacks? Est-ce qu'il y a eu un gros travail là-dessus ou, in fine, ça se fait assez naturellement et assez facilement? Est-ce que, pour vous, ça a été un élément clé, on va dire, du trafic, c'est pas le mot que je cherchais, mais est-ce que ça a été un élément clé de l'attraction? Voilà. Est-ce que ce parcours est vraiment simple? Est-ce qu'il y a eu un gros travail à faire dessus ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement en premier lieu?
Il y a deux éléments. Il y a l'élément vraiment produit et l'élément UX, donc user experience. Aujourd'hui, on est plus sur le travail de user experience pour que les gens, en gros, comprennent notre tambouille qui fait qu'on garantit les notes. Chose sur laquelle on a très peu travaillé. Donc là, je ne peux pas encore m'avancer parce qu'on est en plein travail d'AB testing pour voir ce qui fonctionne. Maintenant, sur le product, là, c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que pour contextualiser, on envoie quand même une personne qu'on a choisie, mais sur des critères que nous, on évalue par rapport à des questions qu'on demande à une famille qui n'est pas l'élève. Et derrière, on fait un matching et on s'engage sur les notes en suivant tous les mois. Donc en fait, il y a énormément d'étapes invisibles d'un point de vue famille, mais qui sont complexes. La véracité des notes, qui remonte les notes, le rythme de remontée des notes, le suivi du rythme de cours, quel est l'indicateur clé qui fait que derrière, tu as un signal pour dire que ça se passe bien ou pas bien, sachant que les familles ne veulent pas être transparentes sur la qualité d'un mentor. Tu vois.
Okay.
C'est aussi un enjeu initial. Finalement, les familles, on les a tellement formatées à dire « mon enfant, il est nul à l'école, c'est de sa faute », qu'en fait, quand ce n'est pas parfait, elles considèrent que c'est la faute de leur enfant.
Okay.
Donc, il y avait aussi tout ce travail d'onboarding pour que la famille comprenne qu'en fait, nous, on garantit les notes, on doit être adapté à l'enfant et ce n'est pas l'enfant qui s'adapte. Quoi. Donc, tout ce travail un petit peu de sous-marin qui aujourd'hui n'est pas très visible côté famille, c'est ça qui nous permet de piloter les notes.
Ok. Est-ce que tu me l'as déjà dit, est-ce que tu peux me donner quel est l'élève qui réalise le plus gros volume d'affaires? Je m'explique. Est-ce que c'est celui qui est au collège, celui qui est au lycée, celui qui est en émission grande école?
Alors là, dans le détail, c'est tout le temps un peu difficile parce que, en fait, tu as tout le temps des cas un peu exceptionnels, un peu la loi de Pareto. Quoi. Tu vas avoir un profil au collège qui va être à 6 heures par semaine. À l'inverse, tu vas avoir une manne avec une entrée d'un enfant, 1h30 en soutien scolaire, mais la famille, elle va ramener les deux autres enfants. Donc après, en termes de volume, on est plutôt à faire, 45% lycée, okay. 30% collège. Et après, c'est dispatché entre, on fait un peu de primaire, CM1, CM2 et le supérieur.
Mais du coup, la branche sur laquelle vous comptez le plus, c'est le lycée. Ou est-ce qu'on a une émergente? Alors,
historiquement, on fait le lycée parce que c'est là où tu flippes, en gros, côté parents. C'est que les gens, le collège, ils disent, bon, quand c'est moyen, ça va. Au lycée, vu que le dossier, en plus maintenant, en partie, il compte en contrôle continu, c'est un peu les instants de panique qui font que naturellement, tu as cette proportion. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le collège, parce qu'on a, au collège, on a des belles histoires à raconter, tu vois, des élèves qui arrivent en cinquième avec 6 de moyenne et qui finissent en troisième avec 14,5, 15 au brevet. Donc, en fait, là, tu changes drastiquement le parcours scolaire d'un élève.
La réussite de l'élève.
Ouais. Et derrière, c'est là où on intervient le plus parce que c'est des aspects qui sont beaucoup moins académiques. Tu vois, au collège, les enjeux, on a 70% des cours, c'est les maths.
Ok.
Donc, en fait, un niveau mathématique sixième, il est vraiment extrêmement simple. Donc, ton hypothèse de base, c'est pas de dire que l'enfant, il capte rien aux maths en sixième. C'est plutôt de dire il a des lacunes qu'il a loupées pour X ou Y raison. Et sûrement que s'il est en pré-décrochage scolaire, il s'en fout des maths. Donc, si tu solutionnes le fait qu'il n'a plus à s'en foutre des maths et qu'il est motivé, tu solutionnes déjà sa scolarité. Quoi.
Tu résous le truc. Quoi.
Ouais. Et ça, c'est intéressant. De notre point de vue, c'est la psychologie. Tu es capable de changer un mindset, de changer une façon de
penser. Ça, c'est un travail aussi. C'est
ouais. Mais c'est ça qui est
c'est
dur.
Une grosse partie du boulot.
C'est exactement ça qui est dur, en fait. C'est pas la transmission de connaissances. La transmission de connaissances, ça n'a jamais été un enjeu. Quoi.
Okay. C'est tout l'aspect psychologique de changer la mentalité de l'élève par rapport au cours et par rapport à la scolarité.
Exactement.
Et c'est là en fait le travail des mentors et de vous.
Exactement.
Okay.
Et là pour le coup, surtout nous, parce qu'en fait le mentor, nous on fonctionne avec des étudiants grande école pour s'assurer du niveau académique. C'est-à-dire qu'une personne qui a eu 19 au bac en mathématiques, on peut supposer que jusqu'à un niveau terminal, il puisse délivrer des mathématiques. Surtout s'il a HEC, Polytechnique. Maintenant sur l'expérience pédagogique, ils en ont très peu. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant avec cette typologie de profil, c'est qu'ils sont, quand il y a un échec de progression de l'élève, ils le prennent pour eux. Étant profil grand élève, enfin grande école, plutôt parcours d'excellence, ils ont tout le temps cette volonté de réussir. Donc indirectement, si l'élève rate, c'est un peu de leur faute. Quoi.
Ok, petite question qui vient de m'arriver. Ouais. C'est quoi le nombre moyen d'heures par mois qu'un élève donne Bon, je l'ai fait en français. En ouais. moyenne, un élève qui travaille avec vous, qui est mentor, donne ouais. combien d'heures de cours par mois?
Il donne à peu près 8 heures en moyenne.
Okay.
Donc 8 heures à un tarif moyen de 25 euros.
D'accord.
Donc il se fait 200 euros. Quoi.
Okay, et après, lui, il doit déclarer ça
auto-entrepreneur.
D'accord. Ouais.
Et du coup, après, y a les... bon, là, ça change un peu tout le temps, mais il y a les cotisations de la première année, deuxième année.
Voilà, etc. Avec l'AC, je crois qu'ils sont à 5,5.
C'est ça.
Puis après, et c'est après, 10, après, c'est 15, après, c'est 23,7. Un truc comme ça.
Ouais, 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 bravo.
C'est ça, ouais.
Ouais. Ouais.
Ok, avant de dernière
partie. Ah oui, et du coup, je reviens sur les mentors. Donc ouais, l'idée était de dire, c'est plutôt des profils qui sont plutôt enclins à venir vers nous quand il y a une difficulté scolaire de l'élève.
Ouais.
Et du coup, en fait, c'est eux qui demandent des conseils de My Mentor. Et nous, en fait, historiquement, vu qu'on a plus de 20 000 heures de cours là maintenant, on a eu beaucoup de cas, en fait. Et quand tu leur dis, moi, avec... le constat qu'on a fait de la problématique et ce que tu nous évoques par rapport à ta situation de l'élève, il faut aller comme ça, on tente ça pendant un mois, on refait un point.
Okay.
Et l'autre élément, c'est ce que je disais sur le mindset, tu as aussi, vu que 70% c'est des mathématiques, tu as aussi plein d'élèves qui disent mon prof en cours ou ma prof en cours, je le déteste et du coup, ça se répercute sur la matière. Mais quand tu prends un jeune ou une jeune qui est un peu la petite fraîcheur, quoi, genre hyper cool, mais qui en plus est bonne à l'école, ou bon à l'école, là, tu as trop envie d'être comme lui ou comme elle. Et du coup, cette phase-là aussi est hyper intéressante. À l'inverse de professeurs en activité, il y en a d'excellents, mais qui auraient pas mal d'expérience et qui pourraient nous dire, vous êtes une jeune structure, donc m'apprenez pas à faire mon boulot alors que ça fait 30 ans que je le fais.
Vous avez des commentaires aussi un peu comme ça, ok.
Mais oui, disons qu'on a tenté les deux sur ma première boîte.
Mm-hmm.
Et on
a vu ce qui marchait pas. Ouais. Quoi. Okay.
Voilà.
Avant dernière partie, c'est... la prospection que vous faites et l'acquisition que vous faites, très simple, je résume ça en mieux. Aujourd'hui, MyMentor.fr est présent sur quel réseau et sous quelle forme? Donc, tu vas me donner sur les grandes lignes votre stratégie de communication, si vous privilégiez des réseaux ou pas, comment vous engagez votre communauté, etc. etc.
Alors, nous, on fonctionne vraiment en termes de communauté, c'est-à-dire qu'on crée l'acquisition, on fonctionne pas mal avec nos mentors, qu'on appelle ambassadeurs. Okay. Donc, c'est des personnes qui vont faire la promotion en ligne ou en offline de My Mentor, dans des lieux qu'on a définis où en ligne, on est beaucoup plus ouvert. Okay. Et du coup, oui, en gros, on les rémunère quand ils nous envoient des leads, donc des familles qui sont en recherche de cours. Donc ça, c'est un peu le business classique. Après, on a pas mal de choses à côté, mais qui ne ramènent pas le plus de flux. Et l'autre chose, c'est le bouche à oreille. Ouais. En fait, on est vraiment dans... on a tenté des choses très classiques comme le Facebook, Facebook Ads, SEA... c'est extrêmement coûteux. Pour vous donner un ordre d'idée, si on met cours particulier Paris sur Google,
il y a énormément de choses.
Voilà, pour être premier,
Il est très cher. Les enchères, elles sont chères.
C'est 20 euros quoi.
Ok. Donc, 20 euros le clic.
Ouais.
Ok.
Et là, aujourd'hui, avec nos mentors, on est plus à 20 euros le lead.
Ouais.
Sachant que le lead vient, quand on vient sur Google, en gros, cours particulier maths, il clique partout, il reçoit des devis classiques. Nous, on n'envoie pas un devis, on dit voilà notre méthode pour garantir les notes.
Donc vous, vous êtes, excuse-moi, je te coupe, vous n'êtes pas du tout dans la publicité payante et dans le placement Google.
On l'a fait, on a tenté.
Et aujourd'hui, vous le faites encore?
Non, absolument plus.
D'accord.
En fait, nos mentors, c'est un peu, on s'est perdu un peu dans ces phases de parcours classique, de tu lèves, tu scales avec des choses payantes, etc. Mm-hmm. C'était notre première expérience, on a beaucoup analysé là-dessus. Et en fait, c'est beaucoup moins rentable que de dire... On a notre team de, par exemple, la promo offline, nos mentors, en moyenne, ils se font entre 60 et 100 euros de l'heure, quoi.
Okay.
En faisant de la promo offline.
Donc en fait,
et nous, le lead nous revient à 25 euros. Donc,
votre stratégie d'acquisition, vous vous basez sur ce que vous avez, vos mentors, et vous, tu l'as dit, je reprends tes mots, vous les prenez en ambassadeur pour vous en amener d'autres.
Exactement, en fait. Très bonne strat. Donc en gros, c'est les mentors où là, on a solutionné le problème. Qui sont assez visibles auprès de familles, etc., parce qu'ils sont sur plein de sites et qui nous amènent du lead. Et en fait, ça, c'est c'est des grands principes d'entrepreneuriat sur les cercles de croissance, en fait. C'est une fois que tu as une base qui s'autogénère, comment faire en sorte que celle-là crée une boucle de croissance dans d'autres éléments. Et en fait, c'est le seul endroit qu'on a solutionné pour permettre cette création de boucle, en fait.
Okay.
Et du coup, on est vraiment dans cette typologie de... d'application des grands principes de growth.
Ça, c'est le boulot que vous avez mis au BizDev, que vous avez donné au BizDev.
Alors, au départ...
Qui le prend, ce boulot?
Alors, nous, le process My Mentor, il est hyper simple. Moi, je fais sur l'acquise recrutement, tous les trucs très opérationnels. Je le fais moi.
Okay.
Je le fais une semaine. Je le norme. Ensuite, le BizDev, il le tente. Dès que le process que j'ai normé, le BizDev, on a les mêmes patterns qui sont là. Après, on l'automatise en feature product. Quoi.
OK.
Et donc là, c'est vraiment...
C'est le process que vous avez, quoi, classique,
ouais,
My Mentor.
Ouais, historiquement,
okay.
Ouais. Et en fait, ça permet d'optimiser tout le temps le temps. Et nous, c'est un peu ça, quoi. C'est de dire, on fait très peu d'horaires. On fait genre 9h, 19h,
ouais.
Mais on taffe plus le week-end, on taffe plus le soir.
Okay.
Mais quand on taffe...
Vous taffez, quoi.
Ouais.
Okay.
Ouais.
Partie finale, les questions que je pose toujours aux entrepreneurs que je reçois, même si aujourd'hui, c'est toi qui me reçois à School Lab, c'est est-ce que tu et votre équipe faites de la veille? Si oui, comment? Sur votre secteur, sur le marché?
On en a fait un peu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la direction qu'on prend, la garantie de notes, je pense que ça existe sûrement en Chine, peut-être depuis quelques années, mais les infos de la Chine, c'est très chaud de les avoir. Aux US, c'est pas trop les directions que les EdTech prennent, c'est plutôt des directions de normer des programmes. Donc vraiment, sur la garantie de notes, aujourd'hui, on n'a pas l'info. Je dis pas que personne le fait,
je dis
qu'aujourd'hui, on n'a pas l'info. Après, au niveau de la veille, on le faisait vachement au début, mais là en fait on a une direction qui est c'est tout le temps à quel point t'es proche d'un pivot potentiel ou pas. Vu que nous on a une direction assez claire qui fonctionne avec un retour de marché qui est percutante, on est plus dans la phase actuellement de nous faire connaître que vraiment veiller.
Vous avez fait de la veille quand il fallait le faire, mais aujourd'hui c'est plus... C'est toujours dans l'intérêt. Il faut toujours un peu faire de veille, mais voilà, c'est plus trop. Vous comptez pas trop là-dessus pour. Ok.
Non, là, on est très. Là, on active vraiment les choses de communication. Donc, à la fois via du digital et via mes prises de parole. En fait, progressivement, je vais plutôt prendre la parole sur des questions d'éducation et aussi My Mentor en général. Enfin, parler de nous, quoi.
On va t'entendre, on va te voir de plus en plus, quoi. C'est ça que tu veux dire, en 2020.
Si j'ai des choses intéressantes à dire, quoi. C'est tout le temps la même chose.
Ok.
Si tout le monde s'en cogne parce que je suis pas intéressant. Peut-être que ça sera la première et dernière interview.
J'espère voilà. pas pour toi, mais bon, je pense pas. Ouais. Deuxième question, c'est ton avis sur l'entrepreneuriat. Quand je dis avis, c'est une question bête, donc je vais te la faire en plus intelligente. C'est est-ce que, avant ta première boîte, mais bon, j'ai bien surtout envie de me baser sur My Mentor, les a priori que tu avais sur l'entrepreneuriat avant d'être vraiment dans le jus comme tu es aujourd'hui avec une boîte en précide qui a levé 400 000, etc. C'est-à-dire, quelles sont les craintes que tu avais, si tu en avais, et quelles sont aujourd'hui, quelle est ta... dans ton aventure là, comment tu la vis par rapport à ce que tu pensais, par rapport à comment tu pensais la vivre, ton ressenti aujourd'hui par rapport à ce que tu imaginais en fait.
Alors moi ça va être hyper personnel, donc je pense que de manière générale sur les questions d'entrepreneuriat,
c'est toujours personnel.
Ouais, c'est tout le temps personnel et il y a plutôt de l'information à prendre et contextualiser dans sa propre vision que vraiment la prendre en conseil absolu. Nous en fait on a vraiment passé la première boîte Grande École à domicile à faire toutes les erreurs possibles quoi, et vraiment c'est convaincu seul que notre idée c'est une tuerie, être de notre côté et foncer en se disant que on a fait
la tête dans le guidon avec les convictions
et avec aussi l'autoconviction de l'intelligence absolue. C'est pour ça qu'aussi elle a fermé.
Tu t'es fait redresser par le marché, par tout.
Exactement.
Le monde, quoi.
Et puis en fait, il y a une phase un peu de transition difficile sur l'arrêt de la première boîte et la nouvelle. C'est quand à titre personnel, j'ai été au RSA quoi. Ouais. Donc là, tu te fais master grande école en venant de nulle part, 3 ans d'entrepreneuriat, et là t'es face au constat de ta prétention qui est d'aller demander un RSA alors que tu pourrais trouver un job facilement, mais si t'en as pas, tu bouffes pas quoi. Donc là, en fait, tu as vraiment un peu une énorme claque dans ta gueule où tu dis juste, bon, maintenant, tu te tais, t'écoutes tout le monde et t'exacques. Et la première erreur aussi de la boîte, c'est de théoriser, quoi. C'est que moi, je pars vraiment du principe que tu as une petite idée, elle est sympa, tu fais la version, mais la plus pourrie possible de la concrétisation de l'idée. Donc, la version très basique, c'est un questionnaire. Et idéalement, à la fin du questionnaire, tu dis, tu serais prêt à payer 10 balles pour mon truc? Ouais. Et tu rappelles quand tu as un truc et tu dis ben, paye 10 balles maintenant quoi. Donc ça c'est vraiment le truc et qui est je pense beaucoup plus dans le modèle US parce qu'en fait par la structure même du pays tu es obligé, c'est à dire qu'en France tu veux monter ta boîte, bon tu sors des études, là c'est vraiment le pire moment hein, donc là tu tentes le truc, t'as pas de thune, tu dois tester les trucs, mais en fait historiquement les entrepreneurs la moyenne d'âge c'est 32 ans et en fait tu tapes 2 ans de chômage, donc en fait les boîtes elles crachent au bout de 3 ans en France parce que tu as 2 ans de chômage, tu as 1 an où tu dis « ouais, il faut vraiment que ce soit rentable et maintenant, je coûte plus zéro » et la boîte, elle se termine. Aux US, tu as 0 thune, tu te pètes la jambe, c'est 10 000 balles de soins. Donc du coup, sous 1 mois, si tu tombes malade…
En fait, les gens ici, en France, les gens ont du temps parce qu'ils ont 2 ans de chômage dans la poche. Ils se disent « ok, j'ai 2 ans pour moduler mon truc » alors que là-bas, c'est « one month » ou « je suis mort
». C'est ça. Après… Après, je pense que ça, c'est un truc un peu...
Ça joue un peu.
Je pense que ça joue quand même fondamentalement. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qui se dit. Quoi. Avant le précide, le plus gros financeur de l'entrepreneuriat, c'est Pôle emploi. Quoi. Donc voilà. Après, sur la vie, je pense que Paris, c'est un super écosystème. Et depuis 3 ans, y a plein de villes qui sont ouf aussi. Donc non, je pense que vraiment, en France, c'est vraiment cool. Le seul truc aussi, c'est de bien s'entourer. Quoi. C'est que là, on a eu la chance par notre résilience. C'est aussi ça, c'est que là, le fait d'avoir recontinué post-RSA, c'est comme ça aussi qu'on a closé les BA de cette envergure. Quoi. C'est que ça a une vraie valeur et je pense que c'est mondial.
Ils ont vu la motivation, la détermination.
C'est la résilience, quoi. C'est que c'est un truc, tant que vous ne lâchez pas les choses, bon, il y a un constat au bout d'un moment, hein, mais c'est vrai que la résilience joue beaucoup et la passion du sujet. Moi, si je n'avais pas eu la passion, mon premier associé, du coup, il a arrêté. Là il est plus entrepreneur mais je pense que ça va sûrement y repasser mais la passion c'est ce qui m'a fait tenir quoi. Attends, en 3 ans on n'a rien foutu, on n'est même pas capable de délivrer un truc.
Et quand tu disais que vous c'était l'équipe qui comptait vraiment, c'est toujours un peu ça de toute façon pour les invests et même pour un projet, c'est l'équipe avant le projet parce que c'est l'exécution et l'exécution c'est l'équipe. Mais quand des BA voient des mecs comme toi dans le sens qui ont cette résilience à fond et, ils se disent ok, ce mec là il va pas me lâcher quoi. Ce mec-là, il revient de son RSA alors qu'il n'est pas dédié au RSA. Il est là encore, il est revenu. C'est bon, il ne va pas me lâcher, il est à fond dedans. C'est une valeur ajoutée par rapport à n'importe quel autre entrepreneur qui, lui, n'a pas cette expérience avant, il n'a pas se passé.
Ouais, en gros, si on prend les stats précis de SID, la première cause d'échec, c'est l'équipe. Quoi. Donc, et dans l'équipe, il y a notamment la résilience. Donc en fait, même si tu as, bon, vu qu'on est tout le temps data, on est un peu, plus ma femme fait un doctorat sur ça, sur les raisons cognitives d'investissement des invests pour des boîtes early stage.
Intéressant, ouais.
Donc du coup, j'apprends aussi via les data de son côté. Mais ouais, 80%, c'est la team. C'est la team qui dit en gros, j'en ai marre, j'arrête quoi. Donc en fait, l'invest qui va mettre un ticket chez toi, il dit bon, bah en gros, j'ai 20% du problème sur lequel j'ai mon pari. Alors que 80% de l'équipe, bon, bah, le mec a fait le RSA, il a continué. Avec mes thunes, au moins, il sera plus au RSA. Ouais, tu vois. Ouais.
Donc ça, c'est bon.
Ouais, et en fait, il fonctionne pas mal comme ça. Et après, c'est effectivement à quel point le marché est intéressant, parce que tu as aussi ça. Mm-hmm. Eux, ils se disent, est-ce que quand je mets 100 balles, je vais potentiellement récupérer 10 000, 100 000 ou 500 balles, parce qu'en fait, c'est un micro-marché. Mm-hmm. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte. Et après, il y a des convictions. Nous, vu qu'on est dans le secteur éducation, les BA qui ont bien réussi, dans nos BA, ils ont, l'an passé ou il y a 2 ans, revendu leur boîte à 30 millions, 15 millions. Un autre avait plutôt pris 100 millions vu que c'était un très haut poste de grand groupe. Du coup, en fait, tu as des situations aussi où ton pari, si c'est l'éducation, tu dis ouais, au moins c'est stylé aussi. Quoi. Donc, il y a un peu un contexte où... Okay, ça jouait avec le facteur principal, vraiment l'équipe et la résilience, puisque mon associé William, c'était pareil quoi. Il avait monté sa première boîte de prêt entre particuliers en 2008 au UK, mm-hmm. où il connaissait personne,
ouais.
Et 2008 c'était la crise financière quoi.
Ouais.
Donc et il venait pas du monde de la finance comme son associé quoi.
Okay, donc lui pareil, il avait tous les éléments, ouais. pour fail, et du coup il est revenu résilience, voilà. Comme toi, même profil,
exactement. Et du coup on est hyper complémentaires. Lui, sur product dev, il est solide. Mmh. Et moi, à la fois sur sales et incarnation dit, ouais. De la pédagogie, ouais. J'ai pas mal de background aussi. Quoi.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Un truc à dire, un message à laisser, un truc à rajouter ? T'as le droit de dire non.
Ouais, non, là, j'ai pas...
Y'a rien qui te vient ?
Ouais, non, non. Okay. Ah si, peut-être petit bouquin de ouf que j'ai lu.
Vas-y.
C'était Hard Things About Hard Things.
Ok.
Et donc, qui est. Alors, l'auteur, évidemment, je m'en souviens plus. Mais c'est un bouquin vraiment ouf sur l'entrepreneuriat, surtout quand on est entrepreneur. Et du coup, je sais pas, bon, tu couperas au pire, mais un podcast chamé quand tu es entrepreneur au tout début et que tu galères, c'est Startup Therapy.
Ouais, de qui ?
Et c'est les deux co-founders de Startups.co,
okay.
qui est un truc US. Et en fait, c'est vraiment pas mal quand tu te poses des questions et que tu es dans un... En fait, c'est par thématique. Donc, tu peux juste check le podcast, te dire sur tel sujet, je suis vraiment une bille.
Et boum, tu cliques, c'est comme un cours et tu exactement. Bois. Quoi, tu bois
c'est,
le truc.
Et c'est deux entrepreneurs qui ont vendu, en cumulé les deux, plus de 5 boîtes à plus de 100 millions.
Okay.
Et qui ont monté en tout genre 30 boîtes.
Genre, c'est des tueurs qui, ouais. Qui te font les sujets.
Qui ont 50, ouais, 50
et 60. Tu bois les sujets et tu sors avec ouais. Un cours dans la tête. Quoi.
Exactement. Okay. Et ça, voilà, c'est les trucs au moins gros tips aussi de tes auditeurs.
Archi bonne ressource, ouais, bien vu. Ok, voilà. Super. Bah écoutez, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage passionné d'entrepreneuriat, à votre entourage entrepreneur, sur tous les réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, et à nous suivre Two Step sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes de streaming où vous pourrez retrouver ce podcast. Surtout, n'hésitez pas à aller voir le site de mymentor.fr si vous êtes parent, si vous êtes élève, vous avez compris le service que ça peut vous apporter et ce que ça va vous apporter. Il faut aller checker ça. Vous êtes présent partout, hein, sur YouTube, qu'est-ce que je dis moi ? Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram.
Alors, on est. Ouais, alors vous pouvez nous contacter. Le plus simple, c'est vraiment sur notre page Facebook, ouais,
okay.
Et le site. On ouais. est assez active et LinkedIn. Sur les autres canaux, bon, on répondra, mais c'est plus simple sur Facebook, LinkedIn.
Et le site. Ok.
Exactement.
N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié le podcast, à suivre l'activité Two Step et de My Mentor. En tout cas, merci. Tony, je te remercie de m'avoir accueilli ici à School Lab,
ouais,
et pour le podcast qui est super. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Écoutez, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.